Flash, un mercredi sur deux à 19h avec Claire, Mel et JR sur Radio G. Sur Radio G, c'est le retour de Pop Flash, c'est la rentrée. Et qui dit rentrée dit plein de petites nouveautés. On se retrouve avec l'équipe habituelle, c'est-à-dire Mel et moi, mais aussi on accueille quelqu'un de nouveau dans l'équipe. On va accueillir Claire qui sera là au moins pour cette saison et on espère pour les prochaines. Et tout simplement, on est content de vous retrouver. Mel, comment tu vas ?
Écoute, ça va très bien. Ravie de recommencer une nouvelle saison avec toi, JR, et avec notre nouvelle chroniqueuse, Claire.
Car oui, encore une fois, la classe s'agrandit et on accueille Claire. Claire, je te laisse te présenter.
Bonjour, moi c'est Claire, certains peuvent peut-être me connaître parce qu'on avait fait une petite interview pendant la Gangé Geek Convention. Je m'appelle Claire, je fais du crochet. J'ai notamment un compte de crochet et puis effectivement, j'ai des très très bons amis qui m'ont inclus dans leur nouvelle classe.
Bienvenue.
Mais voilà, oui, donc vous pouvez retrouver Claire sous le nom de Guigny sur Instagram avec un
bonus de score. Non, c'est Fluffy Romy.
C'est Fluffy. Ah, c'est qui Guigny? Ah, c'est pas grave.
C'est son pseudo Twitch.
Ah, c'est aussi un YouTuber Minecraft anglais.
aussi. Fluffy Romy. Et j'ai pas revu mes fiches, c'est pour ça. Mais c'est pas grave. On va reprendre tout de suite, tout simplement avec, après 2 mois de vacances, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, on va pas se mentir. Beaucoup de choses ont été vues, beaucoup de choses ont été écoutées. L'émission va prendre un nouveau format dans le sens où on va pas faire une grande refonte, mais on va parler probablement de plus de trucs en règle générale, mais de moins de trucs par émission. Je m'explique.
C'était très logique, comme ça.
Mais c'est toujours très très logique, mais je vais m'expliquer et ce sera tout de suite beaucoup plus simple. C'est que en fait, étant donné qu'on n'avait pas beaucoup de temps en fait à la première lors de la première saison, parce que c'était la première saison, pour parler de ce qu'on voulait, on a tout simplement décidé on aurait plus de chroniques, mais qu'on traiterait moins de chroniques par émission. Au lieu de faire 5 chroniques par émission, tout simplement, on va en faire 3. Et en fonction des semaines qu'on a, on va essayer de faire une tournante, je crois qu'on peut dire ça comme ça. C'est pas ouf comme mot, hein.
Un turnover.
On fait un turnover entre chacune des.
Un roulement. Un roulement,
c'est bien. J'aime bien le mot roulement.
Elle rapporte mieux de l'intelligence à cette émission, c'est incroyable.
J'ai ramené le dictionnaire dans la classe.
Oh mon dieu.
On en manquait cruellement. Mais du coup, oui, on va ramener du coup un roulement et on pourra parler d'un peu tout ce qui va et surtout on pourra s'adapter en fait aux différentes nouveautés et tout simplement ce dont on a envie de parler parce qu'on a envie, voilà. Et maintenant qu'on a fait le tour, petite présentation de l'émission d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui on va retrouver notre plus vieille chronique qui est la chronique du coup Game Pop qui sera présentée par Mel comme d'habitude.
Oui.
On enchaînera avec Pop and Clap qui aujourd'hui sera présentée par Claire. Et on finira par une chronique bric-à-brac qui sera la présentation du coup d'une chose d'un événement où on a tous les trois pu aller, qui est du coup l'événement du festival de l'animé qui s'est passé du coup au Pathé Angers. On les remercie parce qu'on a été invité par eux et on pourra du coup faire des retours sur les films qu'on a vus. On en a vu 3, on pourra en discuter, mais sans transition, on va passer tout de suite à Game Pop.
Aujourd'hui dans Game Pop, on va parler d'un sujet bouillant, le rachat de IA par fonds d'investissement. Et oui, le 29 septembre 2025, IA a annoncé son rachat par un trio d'investisseurs. Le fonds souverain saoudien, entre parenthèses, PIF, nom un peu original, le fonds technologique américain Silver Lake et Affinity Partner, la société d'investissement de Jared Kushner. C'est le gendre de Donald Trump. Le montant de la transaction s'élève à 55 milliards de dollars. Milliards, oui. Vous avez bien entendu. Rentrant dans le record du plus grand rachat de l'histoire du jeu vidéo. EA deviendra donc une entreprise privée d'ici 2027 si tout est validé par les autorités. Car oui, chères auditrices et auditeurs, il se peut que ce rachat soit refusé. Et honnêtement, je l'espère, mais encore une fois, Mais qu'est-ce que ça veut dire pour IA? D'abord, il faut savoir que c'est un rachat de type LBO, une opération financée par la dette. En gros, IE devra rembourser en partie sa propre acquisition. On va pas se mentir, ça rajoute une énorme pression financière à l'entreprise et plus particulièrement aux studios comme BioWare ou Maxis. Sachant que les mots-clés derrière ce rachat, c'est rentabilité, optimisation et monétisation. Et quand il y a deux mots sur trois qui parlent thunes, on peut dire que ça sent mauvais. Ça risque de pousser encore plus fort sur les jeux-services, les microtransactions et l'exploitation de grosses licences qui rapportent déjà comme FIFA, Apex ou les Sims. Mais les projets plus artistiques, plus passionnés ou plus audacieux risquent d'être mis de côté, voire supprimés. Les développeurs des studios craignent des coupes budgétaires, des licenciements de masse, mais aussi une privation de liberté de sujet, notamment sur tout ce qui est LGBTQ+, vu le contexte socioculturel saoudien. Certains pensent cependant que ça évitera une course aux chiffres trimestriels. C'est beau de rêver. La communauté gaming autour de ce sujet est majoritairement nerveuse, même si certains voient ce rachat d'un bon œil en espérant des jeux vidéo plus aboutis, surtout après le traumatisme qu'on a eu les fans de la licence Dragon Age Vanguard, qui malheureusement avait eu beaucoup de coupes et avait été rushé. Mais certains fans de la franchise Dragon Age ou encore Mass Effect redoute une suppression de ces jeux et d'une baisse de qualité sur les jeux narratifs. Les fans voient plutôt ce rachat comme une manœuvre financière, sans deck, plutôt que créative. Sachant que le trio d'investisseurs aimerait plutôt mettre en avant l'IA. D'autres espèrent que ça permettra une prise de risque dans le jeu vidéo avec plus de liberté, dans le monde des bisounours peut-être. Vous l'aurez compris, j'ai peur pour l'avenir des jeux IA entre rentabilité, dette et IA. Je ne vois plus de place pour la passion et franchement, je n'ai aucune confiance en ce trio d'investisseurs. Claire, Vierre, vous avez un avis sur ce rachat ?
Je vais te laisser commencer, Claire.
Moi, ça me fait beaucoup rire parce que, étant une grande fan des Sims, récemment, on avait tellement été déçus par le fait que les Sims 5 avaient été annulés. Et en fait, ce rachat-là, ça veut juste dire qu'effectivement, on peut enterrer l'idée d'avoir un nouveau Sims. Ils vont juste faire plus de packs, faire plus d'argent comme ils le font déjà. Et je suis pas sûre que ce soit pour financer de nouveaux jeux plus sympas.
Alors, ça va être pire. Moi, je pense que ça va être pire parce qu'ils vont ponctionner à mort les Sims 4 jusqu'à ce qui est plus rien. Et que ce soit plus exploitable, et puis après ils vont passer à autre chose, ils vont le jeter, ils vont le mettre aux oubliettes. Et projet René, donc les Sims 5, c'est tout ça, ça n'existera plus, hein, on va pas se mentir, les Sims, ils vont être morts et enterrés. Après, ils vont sortir sûrement des packs encore et encore et encore, sauf que Maxis avait une liberté, notamment sur LGBTQ+, par exemple, ou sur la diversification d'ethnie, etc. Je pense qu'ils vont être un petit peu bloqués.
Attends, est-ce que tu aurais peur qu'un proche de Donald Trump dise que l'islamo-wokisme commence à essayer de détruire le jeu vidéo ? Non !
Sans déconner. Non mais voilà, ouais, je pense que les Sims 4, ça va être le dernier opus. Après, on ne sait pas. Hein. Peut-être que les autorités vont refuser ce rachat.
Sincèrement,
on l'espère.
J'espère, parce que plus t'en parles, plus je me dis que ça sent la bite.
Ouais. C'est pas Ubisoft qui a été racheté aussi récemment
Ouais, il y a moyen que ce soit Ubisoft. Après, je veux dire, Ubisoft y est, j'ai un avis, qui est ce qu'il est, et encore une fois, on va dire que je suis aigri. C'est de la merde. Mais ouais. Je vais argumenter. T'avais fini ou sinon je vais finir vraiment. Non, plus sérieusement, il y a un certain temps, j'étais très fan de ce qu'il faisait. En fait, j'aimais beaucoup les jeux AAA, que ce soit Ubisoft, IA et EA. Et par rapport à ce qu'on avait déjà parlé par l'an dernier, on a une espèce de lassitude des AAA personnellement que je ressens et que j'ai l'impression qu'il est assez global, qui fait que c'est assez simple, hein. On nous vend des jeux toujours plus chers pour une qualité qui pue de plus en plus la merde. Moi, le dernier exemple que j'ai, c'est le dernier Doom qui a ses qualités, certes, mais bordel, 90 balles pour cette merde. Enfin, encore une fois, je me suis amusé dessus, hein. Mais t'as 90 balles, prends-moi en rein tant que t'y es, enfin je sais pas.
Donc tu l'as acheté?
Non, j'étais sur Xbox Game Pass.
Ah. Et la vraie question c'est, est-ce qu'il est rejouable? Parce que 90 balles pour genre 3 heures de jeu, non.
En fait, il a une certaine durée de vie, mais à part si tu veux juste changer les difficultés, pour moi, non, il n'a pas de rejouabilité. On n'a pas assez de jeux qui ont de rejouabilité, on a trop de jeux qui sont maintenant le monde ouvert. Parce que tu comprends, le monde ouvert, c'est bien. Tu peux faire plein de trucs, tu peux rejouer plein de fois. Non!
Bah après, ça dépend, tu vois. C'est pour ça que je me dis, tournez-vous free-to-play ou gacha un petit peu. je sais que JR n'aime pas les gacha, mais par exemple, si on prend l'exemple de Genshin Impact, qui a ses défauts, je le reconnais, mais qui est free-to-play, qu'on peut jouer pendant des heures et des heures et des heures et des heures sans se lasser, sachant que ça fait 5 ans qu'il y a tous les ans des grosses mises à jour de lore, etc., notamment la nouvelle mise à jour Nightcry, qui est incroyable. On peut parler aussi de Palia, qui a des mises à jour très régulières et qui est free-to-play. Bon, effectivement, il y a des microtransactions. Palia n'est pas un gacha, mais il y a une boutique premium, forcément. Bon, Genshin, c'est un gacha. On peut parler aussi vite fait de Infinity Nikki, qui est free-to-play, qui a tous les mois une mise à jour qu'ils appellent saison depuis le début du lancement du jeu en 2024.
Mais de toute façon, les free-to-play, oui, c'est l'avenir, mais aussi les jeux indés et...
RPG.
Ou les RPG. On va juste se recentrer sur
la
question.
Sauf si c'est des RPG, il est.
Oui. On va se recentrer sur la question de base. Comment est-ce qu'on voit en fait ce rachat? Enfin, personnellement, moi, comment je vois ce rachat? On va prendre les mêmes et on recommence et ce sera de pire en pire. Je pense que ça fait facilement 5 ans que j'ai plus acheté en jeu AAA. Enfin, j'avais le Game Pass, du coup, je jouais sur le Game Pass. Mais dernièrement, on a pu voir qu'il y a plein de jeux qui sont sortis et qui étaient plus que bien et qui étaient des jeux indés. Silksong, qui a l'air d'être génial, j'y ai pas encore joué, mais à ce qui paraît, il l'est vraiment. Silksong, je sais pas, on va dire au hasard, pour moi, le jeu de l'année qui est Expédition 33.
Clair Obscur.
Et encore une fois, ces jeux coûtent entre 20 et 30 balles.
Moi, je pense à Slay the Princess, si on parle de rejouabilité du jeu indé. Il est fabuleux, il est magnifique. Et en fait, quand on regarde son budget, on est à la moitié moins pour un jeu qui est tellement plus prenant.
Oui.
Je pourrais difficilement dire que IA fait des jeux si touchants. Moi, j'ai besoin d'être touché par un jeu et je pense que IA peut plus le faire depuis des années.
On est complètement d'accord. Et puis même si on part, parce que Slay the Princess, gros coup de cœur. Je l'ai fait en stream et trop trop bien. Hades,
oui,
ou Slay the Spire. Et genre, si on parle de rejouabilité, genre d'un point de vue roguelike, j'ai rarement vu mieux que des jeux indés. Slay the Spire, Hades, Dead Cell, qui est mon jeu préféré. Enfin voilà, faut le dire, à un moment, c'est mon jeu préféré. C'est un jeu que j'ai découvert sur le Game Pass et que j'ai acheté. Avec toutes ces add-ons. Et ça m'a coûté 30 balles. Et j'ai 340 heures dessus.
Non mais oui, du coup, peut-être que du coup, là où il y aura un bénéfice, ça sera pour les studios indépendants, du coup, non, qui pourront être mis plus en avant si EA devient une entreprise privée, même si je suis pas sûre. Après, EA se tire une balle dans le pied s'ils se font racheter, parce que ils vont mettre en avant les jeux comme FIFA. Et on va pas se mentir, même si c'est un des jeux qui est toujours dans leur top vente, au bout d'un moment, je pense que...
Je donne mon avis là-dessus, je sais que Claire voulait dire quelque chose, donc je vais te redonner la parole.
Oui.
Moi, je pense en fait à Battle.net avec Hearthstone, parce que j'ai toujours, toujours joué à ce jeu, et qui était un jeu qui, à la base, demandait toujours aux gens de mettre plus d'argent, ce qui était très énervant. Ils ont trouvé un souffle, parce qu'ils ont sorti du coup, Champ de Bataille, qui est un free-to-play, parce que finalement, le jeu en lui-même, Hearthstone, est gratuit, et que tout le monde a les mêmes cartes, les mêmes chances de gagner. Et en fait... c'est pas si dur, parce que après tu peux retourner sur le jeu et dire ok, je vais acheter un petit peu de trucs. Ou là où IA, dans la plupart de ces jeux, ne fait pas ça. T'as pas la possibilité de jouer pour un moindre coût et te dire ok, je vais mettre de l'argent parce que je sais que je vais m'amuser. C'est pas IA.
Ouais, c'est pas leur, ça a jamais été leur dynamique de toute façon. On peut prendre l'exemple encore des Sims, parce que c'est celui que je connais le plus de IA, avec Maxis. Dans le sens où, à la base, les Sims 4 coûtaient, je crois, plus de 40 balles.
45.
45 balles, il n'y avait même pas les piscines. On ne pouvait même pas construire une piscine de base.
Comment je fais pour noyer mes Sims ?
Mais non, mais. Tu ne pouvais pas. C'était vraiment. Tu avais de la construction et un peu de gameplay. Voilà. Mais tu n'avais pas de piscine, par exemple. C'est l'exemple le plus criant. Et
d'emploi, après. Tu ne pouvais rien faire en termes d'emploi. Hein. C'était terrible.
Ouais, ouais. Et du coup, ils ont sorti un pack au travail. Oui. Mais qui était payant.
15 donc, balles de mémoire.
Non, plus. Même plus, hein, parce que c'est un jeu, c'est un pack, c'est un DLC gameplay.
C'était 30 euros,
donc,
je crois.
Ouais, je crois que c'est ça, les DLC gameplay sont à 30 ou 40 balles.
Putain, je dis que Nintendo nous prend pour des vaches à lait et nous fourrent pendant le cul, mais alors il est...
Les Sims 4, c'est pire que tout.
Les DLC, t'achetais un jeu anti pour ça. Le même, mais en fait, tu pouvais pas y jouer séparément des Sims, c'était systématiquement ça.
Ah bah oui.
C'est un peu de la merde.
Juste pour avoir du contenu qui devrait être de base dans le jeu. Bah les saisons.
Et on parle pas d'un contenu très passionnant. Au travail, c'était genre, t'amenais ton Sims au travail, t'avais un nombre de tâches qui était limité. Mais très très limité, c'était tout le temps la même chose. Tu faisais une fois et plus jamais. Oui.
Et t'avais des emplois. Ouais. Il y avait des emplois où tu ne pouvais même pas voir ton Sims travailler. Et du coup, t'étais en vue. T'es en mode vue sur ta maison. T'attends que ton Sims y revienne de la maison. Du coup, tu mets le temps en accéléré.
Et t'as payé 30 euros.
Ouais, voilà.
Donc, c'était pas ouf déjà. Donc, est-ce que ça va être mieux ?
Non, moi, je pense que ça va être... Soit ça va être pire, soit ça va être pareil.
Ouais, équivalent.
Ouais, pour moi, ça va être équivalent. Et puis, j'espère que ce sera pas le cas. Parce qu'en soi, il y a encore des gens qui sont, je pense, passionnés quand même dans ces entreprises. J'espère, en fait.
Il n'y a plus vraiment de culture avec les entreprises de jeux vidéo. Tu ne vas pas te dire « Oh, c'est un jeu IA, je vais l'acheter », ça n'a jamais été pour IA. C'est juste un modèle qui a perdu de souffle parce qu'ils ont fait des gros, gros jeux qui leur coûtaient beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Et en fait, quand le jeu ne marche pas, tu peux tout foutre à la poubelle.
Bah, et là, on va toucher à l'autre truc aussi qui touche beaucoup les jeux IA. Et je voulais parler aussi du coup de FIFA là-dessus. J'ai un pote qui est très fan de FIFA et qui est en mode « Bah, je ne suis pas sûr que je vais acheter les prochains. » Parce que... ça coûte plus de, je crois que c'est genre plus de 100 balles si tu veux tout avoir. Et en fait, encore une fois, je vais le dire, hein, et je vais pas dire que vous êtes des pigeons, mais on peut quand même. C'est toujours le même jeu, les gars. C'est genre toujours le même jeu. Oui, mais là, les stats de Ronaldo, on s'en fout. On s'en fout. Vraiment. Ouais. Après, enfin, personnellement, mais.
Ouais. Après, je me dis, si t'as les 14 premiers jeux FIFA, c'est bon. Tu peux, t'as de quoi faire pour t'amuser, t'es pas obligé d'acheter les prochains, tu vois. Je pense, sauf s'il y a une révolution dans le gameplay. Ben, on sait pas, peut-être qu'il y aura une révolution. Et d'ailleurs, j'ai vu un post Instagram, je crois que c'était une cosplayeuse anglophone qui a dit qu'il fallait pas paniquer par le rachat du trio d'investisseurs parce que justement vu que leur but c'est l'aspect financier, ils mettront plus de budget dans leur jeu et du coup pour faire plus vendre, du coup ils vont faire des meilleurs jeux pour que ce soit vraiment bien vendu et du coup gagner plus. Moi, je n'y crois pas.
Je le dis ici.
Je n'y crois pas.
Si c'est le cas. Si c'est le cas, je le dis ici. Je me mets à poil sur le toit de la radio. Ça n'arrivera pas de toute façon. Donc, je prends aucune.
Allez, on prend les paris. Et le GR d'ici 2028 sera à poil sur le studio.
Mais de toute façon, je vois le temps et il va falloir qu'on passe à autre chose. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant qu'on termine ?
Non, moi j'ai fini. N'hésitez pas à vous dire ce que vous pensez. De ce rachat. Est-ce que vous êtes plus de la team ? Non, mais c'est trop bien parce que ça permet d'avoir des meilleurs jeux, etc. Ou est-ce que vous êtes plutôt de notre avis à Poplush ?
Ça pue la merde.
et vous avez... On va pas dire que ça pue de la merde, mais... Alors, vous avez peur.
Vous n'allez pas dire ça, je le dis clairement.
Non, mais j'y ai avancé.
Mais toi, Claire, t'as quelque chose à rajouter avant qu'on passe du coup à ta chronique ?
Non, pas particulièrement. Je trouve qu'on a bien sorti le sujet.
Eh bien, écoute, on va tout de suite terminer cette chronique. C'était Game Pop. Merci, Mel, pour cette chronique.
Merci à vous d'avoir répondu.
Bah, c'est normal, c'est notre travail.
On a fait ça qui est le studio, mais on est revenu.
Incroyable.
Mais on va passer sans transition. Du coup à notre nouvel arrivant et à sa chronique. Du coup, on va passer arrivante. On sait pas, mais c'est un homme. Mais on va passer tout de suite. Pop and clap. Et du coup, Claire, je te laisse faire du coup ta chronique.
Eh ben, aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'un peu d'actualité cinéma aussi, parce que j'ai décidé de parler de Downton Abbey, qui est une série qui a toujours été mon enfance, honnêtement. J'ai commencé cette série, en fait, pendant ma licence. Et c'est un peu le genre de série obscure où si tu n'as jamais entendu parler de cette série, c'est un truc de vieux. Et effectivement, enfin, c'est une série qui commence dans les années 1910. Ça va pas nous rappeler notre enfance comme Friends ou quoi, c'est vrai. Et en fait, c'est très d'actualité parce qu'ils ont sorti leur dernier film qu'ils ont appelé le film final. Ça fait 3 fois qu'ils sortent leur film final. C'est vrai qu'on commence un peu à s'impatienter. Mais du coup, je voulais en parler. Donc, Downton Abbey, qu'est-ce que c'est pour commencer? Downton Abbey, c'est une série qui commence dans les années 1910 où on suit la famille Crowley au moment du Titanic. Il s'avère que l'héritier de la famille Crowley, grand domaine anglais, meurt pendant le Titanic. Et donc toute la série commence par cette question, mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est une vraie question sur l'héritage et agrandir. Et en fait, la série, elle se passe sur 20 ans. Donc c'est une très très longue série, il y a 6 saisons de 52 épisodes chacun, qui durent 50 minutes chacun. C'est une vraie tranche de vie qu'on suit pendant plus de 20 ans, où on voit l'évolution dans une petite bulle, parce que le domaine de la famille Crowley, c'est vraiment un petit domaine en Angleterre, et on voit comment les gens évoluent. Parce qu'à l'époque, on parle de 1910, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de voiture. C'est loin de nous, c'est très très loin de nous, et puis on parle vraiment d'une famille aristocratique qui commence au plus haut de l'échelle possible. Ils ont, ils ont des émissaires de la couronne qui viennent, des gens qui viennent de l'étranger. On a un peu ce côté un peu Agatha Christie quand on commence, avec tous ces personnages qui se rencontrent pour des grands dîners. Et en fait, quand la série elle évolue, on peut pas rester insensible, parce qu'il y a des personnages qu'on va détester, des personnages qu'on va aimer du profond de cœur. On a des grandes stars aussi dans cette série, on a Maggie Smith. C'est pas n'importe qui. Et dans ce dernier film, justement, ils lui ont rendu hommage. Et c'est pour ça que je voulais parler dans cette critique-là. Parce qu'en fait, je pense que c'est important qu'on ait des grandes sagas comme ça qui existent et qui nous montrent l'évolution de la condition de la femme. Parce qu'on parle d'une série qui commence où le divorce, c'est pas autorisé. Le dernier film, attention, petit spoiler, mais c'est totalement dans le résumé du film. Marie, elle est divorcée, en fait. Et on est tout autour de cette question de la condition de la femme, de ce qu'elle a le droit de faire ou de pas faire, et aussi des servants. Parce que les servants font autant partie de l'histoire, même plus, que la grande famille. Et c'est une série qui a eu un entourage hyper intéressant, parce qu'ils se sont entourés d'historiens pour que les costumes soient d'époque, le langage soit d'époque. Et ça, c'est quand même très intéressant quand on y réfléchit, parce qu'il y a beaucoup de séries dites historiques qui vont pas prendre le temps de respecter. Et ben non, c'est pas le cas de Downton Abbey, qui, au point où ils ont dû faire les fonds de tiroir et prendre des tenues historiques d'autres séries pour habiller, parce que rien que les personnages principaux féminins, elles ont nécessité plus de 1000 tenues pendant les 6 saisons. Et on parle d'une époque où, ta tenue de journée n'est pas ta tenue de dîner le soir. Que tu sois avec ta famille ou que tu sois juste avec un grand dîner, il faut te changer. Et c'est vraiment fabuleux de voir ça et de voir l'évolution. Et comme je le disais, on a cette peur que, effectivement, ce soit une série pour vieux ou pour femmes. Et en fait, c'est un peu l'exemple qu'on peut donner d'une série qui convient à tout le monde. On va d'abord la regarder du coin de l'œil quand quelqu'un la regarde, puis commencer à se dire « Mais que devient Marie ?» Et au final, on finit vraiment par être accroché par cette série qui finit par vous faire tomber amoureux d'elle et de ses personnages. Et on veut voir ce qui se passe, en fait. On veut que ces personnages payent. On veut que certains personnages soient heureux. Et je trouve ça hyper intéressant que cette série, qui a quand même commencé dans les années 2010, elle prenne enfin sa fin maintenant. Et même si on parle pas d'un phénomène mondial, c'est quand même connu de nom. Sans jamais forcément avoir regardé Downton Abbey, tout le monde connaît Downton Abbey. Et moi, je vous invite aujourd'hui à la regarder, ou au moins prendre le temps d'eux, parce que Maggie Smith, c'est vraiment le Booba de l'époque. Elle lance des punchlines pendant toute la série, et en fait, on a juste envie de l'applaudir systématiquement, parce qu'elle est insupportable, elle est méchante, elle est très égoïste, mais qu'est-ce qu'elle est fabuleuse, quoi. Maintenant, après, j'ai beaucoup parlé, vous, est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette série ? Quelle est votre vision du truc ?
Moi, j'ai entendu, comme t'as dit, tout le monde connaît, donc moi, j'en entends parler sur les réseaux, etc. Je peux en avoir entendu parler, mais c'est vrai que ça m'a jamais intéressée. Tu m'as donné envie. Donc voilà, est-ce que après je vais investir mon temps, parce que tu as dit qu'il y avait 6 saisons, ouais, de 52 épisodes par saison. C'est énorme.
C'est beaucoup.
Après, ça dépend, c'est des épisodes de combien
de minutes. C'est autour des 50 minutes, c'est une petite...
Ah oui,
après,
quand même.
C'est vraiment, je pense, le genre de série que tu peux regarder pendant longtemps sans être hyper investi dedans. Mm. Mais par contre, c'est intéressant parce que c'est pas le genre de série que nous, on a nos jours où tu peux regarder à côté et faire un autre truc à côté.
Ah ouais,
c'est genre, il y a une vraie écriture, il y a une vraie intention narrative où genre... Tu regardes et t'es vraiment pris par le truc.
Et quand tu parles de films, c'est-à-dire qu'en fait, les saisons, donc il y a 6 saisons, ouais. Ça s'est terminé et après ils ont sorti des films, c'est
exactement,
ça
exactement.
D'accord, et il y a 3 films, c'est ça?
Au total, ouais. Les okay. 3 étant sortis le mois dernier.
D'accord.
Et il faut savoir que dans la série même, on passe des années 1910 à la Première Guerre mondiale et à la fin du coup des 30 Glorieuses, où je crois que la série s'arrête en 33. Et après, c'est les films qui prennent le relais. Donc même que ce soit pour les passionnés d'histoire ou vraiment juste les passionnés en règle générale, c'est un petit soap opéra, c'est vraiment très sympa. Mais c'est vrai que ça peut faire long au début les épisodes, mais j'ai envie de dire, c'est comme tout dans la vie, c'est bien d'avoir peur, vaut mieux tester et se dire ok c'est trop long, j'arrête, que de pas tester.
Ouais, c'est vrai.
De toute façon, si on teste pas, on le saura jamais. Mais du coup, quand tu dis que c'est une série qu'on ne peut pas faire en faisant un truc à côté, est-ce que tu veux dire que c'est une série qui n'est pas comme Squid Game saison 2?
Bah, c'est vrai qu'effectivement, le seul épreuve, c'est vraiment d'éviter les punchlines de Maggie Smith. Je dis pas que c'est facile non plus, mais c'est vrai que c'est pas pareil.
Parce que c'est vrai que bah, ça me donne envie, mais encore une fois, 6 saisons de 52 épisodes, c'est long, mais 52 épisodes par saison? Oh!
C'est un monument cette série.
Mais du coup, oui, en effet, c'est très long. Mais il faut essayer pour voir si on aime bien. En vrai, j'en avais déjà entendu parler. Et j'avais déjà vu des parodies, notamment chez les Simpsons et autres. Mais ça me donne envie. Enfin, on en avait déjà parlé de toute façon avant l'émission. Et tu sais que ça me donnait envie. Mais surtout, ce qui me donne envie, c'est que j'ai l'impression que c'est un peu genre le style de série qui est sorti un peu en prenant son temps.
Ouais.
Ce qui, attention, on dénonce, encore une fois, pas flash. Non, plus sérieusement, qui, je trouve, manque un peu aujourd'hui avec notamment cette nouvelle culture du binge-watching où tout sort d'un coup et ça tue la hype.
Ouais, et puis c'est une série qui est basée sur une ancienne époque, mais qui est très actuelle dans ses sujets, parce que bah, de toute façon, humainement parlant, les sujets évoluent pas toujours. La condition de la femme, comme je disais, avec des sujets vraiment beaucoup plus précis et trigger warning pour certains, mais tout est vraiment fait en justesse, et je pense qu'on y gagne tous à regarder ce genre de série qui te permet de te remettre en question, parce que bien sûr, aucun de nous ne fait partie de la classe aristocratique, c'est le cas de beaucoup, et en fait, c'est une famille royaliste au début et tout. On parle de l'Angleterre, on parle de l'Irlande, et je pense que ça peut appeler à tellement de sujets, c'est tellement chouette, en vrai. Mais je comprends que ça fasse peur à certains. Moi, j'étais la première à dire « Oh, c'est long et tout ». Et en fait, on sent pas le temps passer. Même entre saisons, on sent pas le temps passer, c'est hyper intéressant.
Est-ce que c'est un peu une sorte de Gossip Girl, mais des années...
À beaucoup d'aspects, ouais.
Ça me fait penser à ça.
C'est sûr qu'en plus, ça dure 20 ans, donc faut te dire que certains personnages, ils commencent, ils sont genre, oh, le petit servant qui vient d'arriver et tout, et à la fin, genre, ils ont une famille et tout, et t'es à côté en mode, oui!
Le bébou, il a grandi!
Il y a des mariages, il y a des divorces, mais il y a genre tellement de sujets et c'est intéressant. Genre, bah, du coup, 6e saison, là où j'en suis actuellement, petit spoiler, il y a des voitures de course. Alors qu'on parle d'une série qui a commencé où il n'y avait même pas de voiture, ils venaient tous à chevaux.
Incroyable!
Et il y a des personnages qui sont très représentatifs, donc Maggie Smith qui joue la mamie, mais il y a aussi Carlson qui est genre le majordome. Et c'est vraiment très très vieille Angleterre, ce qui clash un petit peu avec certains autres personnages qui arrivent, et même la condition en vrai des ouvriers, où c'est vraiment à la base bah, des servants. Et en fait, vers les fins des séries, ils sont en mode, en fait, c'est très bien d'être servant, mais je me vois pas faire ça toute ma vie, et commence à se tourner vers d'autres choses.
Ah bon?
Étrange. Mais oui, mais parce
étrange.
Que pour nous, c'est évident. Et c'est vrai, quand on commence la série, eux, ils sont juste en mode, ok, bah, je vais me trouver un domaine, vivre pour la famille toute ma vie, et c'est good. Genre, Carlson,
au
début de la série, il a genre 50 ans, je pense. Il a commencé en tant que valet de pièce, qui est genre un servant. Et c'était il y a 50 ans.
Ce qui est même pas en soi si choquant que ça, bah avant tu vivais pour la famille. C'est même pas pour ta vie, tu vivais pour la famille. Mais t'étais pas un membre de la famille parce qu'on va pas se mentir, tu restais en.
Un servant, un domestique.
C'est même le nez de pied un petit peu de cette série, c'est de dire attention, faut pas idéaliser le truc. C'est des gens qui sont tellement genre proches du truc chevaleresque, qui est très. C'est des nobles, mais vous comprenez, ils sont vraiment très doux, ils sont vraiment très proches de leurs servants. Et je pense que c'est vraiment le seul danger de cette série, c'est juste, il faut le prendre avec un petit peu de recul et de se dire ok bon ils sont très mignons, ils sont très sympas les Crowley, mais en vrai de vrai ça reste quand même des petits aristocrates. Je dis pas qu'ils sont sont tous méchants, je dis simplement qu'effectivement, tout n'est pas si beau et merveilleux dans le fait d'être un servant pour une grande famille.
Disons qu'un bûcher de temps en temps, vous savez.
En vrai, il y a un personnage qui est irlandais comme ça, et au début de la série, il arrive en mode « moi mettre le feu à Domaine dès que possible », et à la fin de la série, il est en mode « j'ai changé d'avis quand même ».
Ils sont bien sympas en fait.
C'est bien d'être riche.
Bah parce qu'en plus, oui, il finit vraiment par genre être très très haut placé dans la famille et tout, alors qu'à la base, il n'en fait pas partie. À la base, c'est le chauffeur.
Ah ouais.
Et là, j'ai dit chauffeur, attention, parce qu'il arrive quand il y a les voitures. Énorme. Wow. Et gros changement. Hein. Et c'est très chouette parce que bah, nous, on est nés avec l'électricité, les voitures, machin et tout. Et t'as ce côté très historique où t'es en mode, tu sais pas où tu te trouves, t'es dans la vieille Angleterre en pleine cambrousse avec des aristocrates et tout, et t'es en mode, ça fait du bien.
Ça a l'air intéressant, vraiment.
En vrai, ça a l'air très intéressant.
Ça me tente.
Et dans l'actualité aussi, il y a vraiment le fait qu'il y a la série qui est sortie de House of Guinness, qui est une série sur la famille de la maison Guinness, la bière. Et bah, en fait, elle est inspirée de Downton Abbey en grande partie.
Tu l'as vu d'ailleurs ?
D'accord.
Oui, je l'ai commencé.
On va pas en parler tout de suite, je pense.
Mais on en parlera la prochaine fois parce que je l'ai pas fini, mais. Mmh. Elle est quand même plutôt sympa. Par contre, c'est une série où même s'il y a un grain visuel. Bon, c'était pas très attentif, c'est pas bien grave, les personnages ils vont te rappeler et te dire ce qui se passe au téléphone.
Ok.
Ah oui, ok. Tintin d'Abbaye ne fait pas ça. Hein.
Le fameux ah mais c'est qui lui ? Ah mais c'est l'arrière-grand-tante dit au téléphone par l'oncle. Ok, bon, en vrai, ça peut être pas mal pour tous nos amis qui ont des problèmes d'attention. On ne pense à personne.
Pourquoi vous me regardez
Non, mais en vrai, ça a l'air d'être très. Bah, en vrai, franchement, ça me tente bien. Est-ce que t'as quelque chose à rajouter, Claire ?
Moi, je pense que c'est bon, mais j'ai envie de dire. Qu'est-ce que vous en pensez de l'autre côté, finalement ? Est-ce que vous avez déjà regardé ? Est-ce que vous avez un personnage que vous préférez qu'il brûle ? Parce que moi, oui, plusieurs. Marie, notamment. Donc, n'hésitez pas.
Bah, de toute façon, on verra les retours quand on fera la diffusion, bah, que ce soit à la radio, soit sur Twitch. Mais en attendant, de toute façon, moi, je vais juste vous rappeler que vous écoutez Pop Flash sur Radio G, 100.5 FM, et on va faire tout de suite notre petite pause musicale.
Oui.
On a fait son cahier.
Oh, c'est bon.
Et du coup, qu'est-ce que c'est la musique ?
Et du coup, on va écouter No Goods Nina de The Butler. On se retrouve juste après. Des bisous.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
I'm trying to stay straight and narrow like I probably should, but oh my Nina, you're just no good. You're just no good. You got the that I want, the things that I like. No good Nina keeps me up all night, up all night. And have you seen her? No, 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 no good Nina. And have you seen her?
No, 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 no good.
She's driving a car blasting out with the windows down. If you're not careful, she'll take you away. If you're not careful, she'll lead you astray. And have you seen her? No, 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 good Nina. Have you seen her? No, 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 good Nina. Just an average Joe. You'll hear her come and she'll be singing hello.
Hello.
Oh, you saw with a handsome man with a stash on his face and a pastry in his hand. But I understand.
And have you seen her? No good Nina. And have you seen her?
No, 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 no good
she's
Nina.
She's driving a car all around town, vintage shoes blasting out with the windows down. If you're not careful, she'll take you away.
not careful, she'll lead you astray. Have you seen her? No. Have you seen her?
On sent que c'est la rentrée. Oh, non. Ouais, voilà. Vous voyez, vous sentez que c'est la rentrée. On va pas couper ça. Mais plus sérieusement, du coup, on va se retrouver tout de suite pour le bric-à-brac. On va mettre la virgule maintenant. Voilà, la virgule a été mise. Et on va tout simplement parler de quoi aujourd'hui dans le bric-à-brac. Alors aujourd'hui, pour une fois, j'ai envie de dire, une fois n'est pas coutume, c'est moi qui vais présenter le bric-à-brac. Et on va parler du dernier événement où on a été invité. On a été invité au Festival de l'Animation qui a été organisé par le Pathé Angers. Qu'est-ce que c'est le Festival de l'Animation qui est organisé par le Pathé Angers? Vous savez, je vais répéter beaucoup de fois Pathé Angers, on peut le compter si vous voulez, plus sérieusement. C'est un festival qui a été pour le coup organisé par deux employés qui travaillent au cinéma Pathé, voilà, et qui ont décidé avec du coup l'accord du cinéma d'organiser les deux employés sont deux employés qui sont là, je crois qu'il y a la responsable de communication, et au cours de ce festival, c'est un festival qui se déroule sur plusieurs jours qui ne se suivent pas, ce qui est assez rare pour qu'on puisse le dire, c'est que du coup ça se passe tous les samedis et dimanches. Et à chaque fois, il y a des nouveaux films qui vont passer du coup à 10h et à 17h. Notre émission, alors il y a plusieurs émissions radio qui vont en parler. De mémoire, il y a la Casa Seb et une autre émission dont j'ai oublié le nom, mais c'est une des émissions cinéma, je suis vraiment désolé.
Moi, je l'ai le nom, si tu veux, oui.
Je veux bien.
C'est Clap and Chat.
Et du coup, Clap and Chat qui parleront du coup des autres films qui y étaient. Nous, on a eu la chance de voir, alors pas en même temps ce film malheureusement, mais on a pu voir Kimetsu no Yaiba, Le Château de l'Infini. Et après, par contre, on a été voir ça ensemble, on a été voir Persepolis et Belle. Mais du coup, ces trois films, c'est bien que je dise qu'on a été les voir, je suis sûr que vous êtes très jaloux, mais de quoi est-ce que ça parle? On va faire dans l'ordre de ce qu'on a vu, et on va commencer tout simplement par Kimetsu no Yaiba, qui est du coup Le Château de l'Infini. C'est le film Demon Slayer, pour être plus calme. Ça a été réalisé par Haruo Sozaki, voilà. Et c'est une adaptation du coup du manga Demon Slayer, et plus précisément de l'arc Château de l'Infini. C'est distribué par le studio UFO Table et c'est sorti, no shit, en 2025. C'est la suite directe des arcs précédents. Tanjiro et les piliers vont devoir affronter les plus puissants démons du château de l'infini et peut-être essayer de tuer le grand méchant de la saga, parce que à Grogu, il faut le buter à un moment, ce connard. C'est un énorme événement qui a été attendu par beaucoup de fans, et on va peut-être commencer par voir ce qu'on a pensé de ce film chacun, et après je présenterai les autres films. Mais du coup, à vous l'honneur, qu'est-ce que vous avez pensé du film Kimetsu no Yaiba?
Alors moi j'ai adoré, l'animation incroyable, je suis très bon public, alors je sais que mon avis n'est pas celui de tout le monde, parce que j'ai entendu dire qu'il y avait pas mal de gens qui trouvaient le film un peu long et pas forcément nécessaire pour certains aspects. Moi, j'ai bien aimé. C'est vrai qu'il y a quelques longueurs, mais c'est pas dérangeant. Moi, j'ai trouvé l'histoire d'un des personnages, donc qui est un méchant, qui est une lune supérieure, très très bien. J'ai même pleuré, voilà. Mais encore une fois, je suis bon public. Peut-être que ça ne touchera pas tout le monde. Moi, ça m'a touchée en tout cas. Et voilà. Et puis, l'animation, comme d'hab, et la musique. La musique qui accompagne tout le film, qui est incroyable.
Donc toi, c'est un grand oui.
Ouais, moi c'est un grand oui.
Ok, Claire.
Moi, j'ai bien aimé ce film en grand, en très très grand. Effectivement, la longueur, ça n'a pas été un souci pour moi, dans le sens où je pense qu'il avait une très très bonne longueur pour un film. C'est pas étonnant d'avoir cette longueur-là. Maintenant, on en a énormément. Par contre, je pense que c'était très inégal dans sa narration, dans le sens où, effectivement, c'était très chouette d'avoir ce flashback et cette histoire. C'était dommage, par contre, qu'elle soit coupée autant, parce que sur l'investissement émotionnel, j'avais un petit peu de mal, parfois. Ça coupait, ça revenait, et il y a des personnages qui n'ont fait qu'un marathon pendant tout le film. Et même si je suis très impressionnée par cette compétence sportive, je n'ai effectivement pas, les pauvres, quand même. C'est vrai que j'aurais préféré que soit le film ne les évoque pas du tout,
ouais,
soit que il leur donne un peu plus de rôle, parce que là il y a un goût de il en manque,
oui.
Et il y a certains moments où je me disais c'est très bien, mais ouais, ils sont où en fait?
Je vais te rejoindre là-dessus. Ouais.
Vas-y. Je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'en fait ils auraient pas forcément j'ai pas vu l'utilité de montrer une scène en plein milieu du film de eux en train de courir. On peut les montrer au début en mode ils vont se battre, ils vont partir dans la forteresse de l'infini, donc
oui,
forcément ils sont là, donc voilà. Et tu les montres au début pour remettre un contexte, etc. Mais effectivement, les voir en plein milieu du film en train de courir. Bon, effectivement, je suis impressionnée par leur cardio, que je n'ai pas, moi, personnellement. Mais sinon, ouais, c'est tout. Il y a le flashback aussi du premier personnage qu'on voit méchant, oui, là. Doman,
on n'a pas encore vu vraiment son histoire.
Mais apparemment, on n'a pas encore vu. Donc, du coup, j'ai l'impression que c'était des flashbacks fragmentés qui seront sur plusieurs parties.
Là, on va toucher, moi, à ce que je vais faire comme critique, justement, là-dessus. C'est que, en fait, le film est bon. Le film est bon.
Oui.
J'ai du mal avec le côté on finit une série animée pas en film. J'ai l'impression que c'est surtout une histoire de gros sous-sous, et en fait j'ai aussi l'impression que ça pète la hype, surtout sur le coup où c'est trois films qui vont sortir avec une année à chaque fois. Et merde quoi, genre le film en fait aurait été une très bonne saison et on aurait peut-être moins ce sentiment de longueur. Le film, alors encore une fois, c'est pas My Hero Academia, grosse merde, mais
un euro à chaque fois qu'il dit ça.
Ah oui, non, mais je pense qu'on va faire le bocal. Le bocal, oui. À combien de fois il mentionne,
non,
on
mais
mettra
c'est juste,
un euro.
C'est
non,
pour
il bocal, mettra un euro.
Le bocal aura son propre micro pour
le
bruit.
Oui, je pense, ouais.
Mais c'est vraiment juste pour faire le truc. J'ai vraiment bien aimé le film, mais il y a des longueurs. Vous ne verrez pas forcément votre personnage préféré combattre, et je trouve ça dommage.
Mais il
court très très bien.
C'est ça.
Il y a des trucs qui, je pense, ont été un peu trop rushés par rapport à ce qu'il y avait dans le manga, notamment le combat de Zenitsu qui aurait dû avoir un peu plus de temps. Le flashback, je l'ai trouvé un peu long, même si je comprends la longueur.
Du flashback de Akaza.
Le problème là-dedans, encore une fois, il y a un personnage qui meurt, mais qui meurt dès le début, et en fait, son combat dure 15 minutes, et juste dommage parce que dans le manga de mémoire, ce personnage meurt et après on enchaîne avec un combat où on aurait pu, on ne serait-ce que voir le début avec un duo qui marche très bien, et tout ça, je trouve ça au final dommage. Je pense que c'est dû au fait que c'est le format film, et le format film, je le dis et je le redis, pour une série d'animation, ça me fait chier.
Ouais.
En fait, ça aurait été mieux si le film se suffisait à lui-même, mais en fait, tu regardes ce film en te disant « Ah, ok, il y en aura un autre. » Je pense que quand ils seront tous sortis, ce sera chouette de pouvoir les regarder tous d'affilée. Ouais. Mais quand tu ressors de ce film-là, t'as pas ce sentiment satisfait de dire « Ok, on m'a raconté une histoire de A à Z et là, je suis content. »
Ouais.
Et je prends le... C'est pas forcément une bonne comparaison, mais Le Seigneur des Anneaux, il y a beaucoup de films. Et les films complètent tous une histoire. Mais pour autant, quand tu t'arrêtes, bah, même si tu dis « Oh, qu'est-ce qui se passera après ?» T'es quand même content de ce qu'on t'a raconté.
Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, par exemple, Le Seigneur des Anneaux, le volet 1, il se suffit à lui-même. T'es pas forcément obligé de regarder les deux autres pour...
Pour kiffer.
Pour kiffer de ouf. Et t'es pas obligé d'être... un fan des Seigneurs des Anneaux, de l'univers, ou d'avoir lu les livres pour comprendre là où ce film-là, il y avait beaucoup de gens, et j'étais très étonnée dans la salle, qui n'avaient pas vu le film.
Alors.
Et je me dis comment ça se fait que...
Parce qu'ils sont partis du principe qu'on leur expliquerait, ce qui est le cas de beaucoup de films quand tu vas aller voir un film d'une certaine...
Ah non, mais je blâme pas les spectateurs, mais non, je pense justement, que c'est comment ça problème, se fait que le film ne prévient pas avant et qu'ils ne mettent pas un petit contexte, ou même...
Tu te souviens du Train de l'Infini?
Ouais.
Il y avait un contexte, et en fait, tu pouvais y aller sans connaître vraiment, et... qui fait, et je pense que c'est tout le problème de, c'est la fin et tout ça. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui, nous, notamment, étaient avec nous, qui n'avaient pas suivi le truc, qui étaient un peu perdus, qui étaient un peu en mode, c'est genre très belle animation, parce qu'encore une fois, l'animation, elle est très belle.
Mais après,
je suis désolé, je vais devoir couper.
Vas-y.
Parce qu'on va pouvoir passer au prochain film. Non, mais il n'y a pas à t'excuser, c'est bien.
Beau film, joli, mais qui manque un peu.
Voilà. Ouais. Après, c'est un peu, j'ai envie de dire, parfois un peu tout le sujet de Demon Slayer, c'est que l'histoire est assez basique, dans les guillemets. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise.
Ouais.
Mais c'est juste que c'est des choses qu'on a beaucoup vues et que voilà. Mais bref, le deuxième film qu'on a vu, qui personnellement a été mon préféré des trois, c'est Persepolis. C'est du coup, ça a été réalisé par Marjan Satrapi. Satrapi, désolé si je le disais. Et Vincent Parono. Ça, c'est par contre. Voilà. Et c'est du coup une adaptation de la BD autobiographique de Marjan qui s'appelle Persepolis. BD que j'ai lu avant de voir le film et qui est très bien. Ce n'est pas pour les enfants. Trigger warning, ce n'est pas pour les enfants. Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas fait. Mais du coup, pour faire un pitch très très rapide, c'est du coup l'histoire vraie d'une jeune fille iranienne après une révolution islamique. Et ça peut être à la fois drôle dans certains cas. C'est souvent très lucide, très terre à terre. Et ouais, quand on en ressort, parfois on n'est pas très bien.
Non.
C'est sorti en 2007, donc ça commence à être assez vieux. Certains qui nous écoutent n'étaient peut-être pas nés.
Oh, ça fait mal.
J'avais 12 ans, je ne l'ai pas vu quand il est sorti parce que, raison évidente, j'étais trop jeune.
J'avais 5 ans.
Allez.
J'ai mal. Mais voilà, personnellement, je vous le conseille beaucoup. J'ai beaucoup aimé... Je commence rapidement et après je vous donnerai votre avis, désolé. C'est une animation qui est très stylisée et c'est très agréable, entièrement en noir et blanc, avec des dessins qui sont très proches des dessins de la BD tout simplement, et qui a ce petit goût de ce n'est pas cliché, ce qui est bien aujourd'hui. Oh là là, un truc qui parle de d'une autre culture sans être cliché. Oh là, il n'y a pas de... il y a des clichés forcément, mais en fait c'est des clichés qui reviennent de la personne là-dessus. On parle du traitement des femmes. Beaucoup de traitement des femmes. C'est que c'est de mémoire, c'est quand il est sorti, ça a été un des premiers vrais films d'animation féministe là-dessus, et qui a donné un vrai bol d'air frais. La narration est... je dirais, c'est parce que c'est une narration qui est pas vraiment comme on pourrait l'imaginer. Je sais que par exemple, Mel au début avait pas compris comment ça marchait. Mais voilà, j'ai passé un très bon moment sur le coup et je vous le conseille, je vais pas le spoiler. C'est pour un public averti. Beaucoup de trigger warning. Ouais. On va parler de trigger warning avec de la mort, du sexe, du racisme. On va parler aussi
de violence physique.
Ouais, de violence physique. On va parler de pauvreté et on va parler de lutte des classes. Parce parce que vous savez que ça me tient beaucoup à cœur. Mais, mais plus sérieusement, beaucoup de personnages qui sont très très touchants. Gros big up à la grand-mère que je trouve incroyable. Mais voilà. Et du coup, vous en avez pensé quoi ? On va commencer par Claire, vu qu'on avait commencé par Mel avant.
Moi, ce film, je l'avais découvert quand j'étais au collège et j'en avais un souvenir très très bon, mais très confus en fait. Je pense que ça a été un des premiers films d'animation où je me suis dit « Ok, bon, c'est un film de cours, mais c'est pas si chiant que ça. » Ce qui arrive pas si souvent que ça, il faut le dire. Et c'est un film qui est splendide à sa façon. C'est-à-dire que c'est un film où c'est cru, Marjane nous raconte vraiment ce qu'elle a vécu, comment elle l'a ressenti, et je pense que c'était un peu pour se débarrasser quelque part, de le sortir quelque part, de dire ok, ça c'est ma vérité, ça s'est passé comme ça pour moi, et c'est ce qu'elle dit beaucoup en interview. Et je pense qu'en re-regardant ce film avec des yeux d'adulte maintenant, on se dit waouh, ok, c'était vraiment dur, mais je pense qu'il fallait vraiment le dire, et je pense que tout le monde devrait au moins une fois regarder ce film pour comprendre ce que c'est que d'être prise dans un tourbillon politique et genre vraiment de violence en fait, en étant un enfant et pas en comprenant tout parce qu'on n'a pas les codes. Et je pense que c'est vraiment vraiment intéressant quand nous on est un adulte et qu'on a cette responsabilité de beaucoup de choses et de devoir effectivement gérer avec les aléas politiques et de la situation à chaque fois. Je pense que c'est vraiment beau, et effectivement le côté un peu BD, mine de rien, ça apaise aussi en fait, parce que ce serait trop dur si c'était des vrais acteurs, je pense. On y croirait moins aussi peut-être.
Il y a deux trois scènes où heureusement que c'est en BD.
Voilà. En tout cas, j'adore ce film de tout mon cœur et je pense que tout le monde vraiment devrait le voir, mais il faut être prêt à le regarder.
Vas-y, Mel.
Ah. moi, je suis d'accord avec Claire. J'ai beaucoup aimé. Moi, j'ai un goût de frustration parce que j'avais pas le contexte par rapport au fait que ce soit une autobiographie. Et du coup, moi, je voulais que ce soit un point A et un point B, et limite que y ait une révolution, que les choses changent.
Tu voulais en shonen.
Mais
battez-vous. À la fin, j'avais un petit goût de ah, quand même, ça, j'étais là, ça se finit comme ça.
Ouais.
Sérieusement. Quoi ? Et j'étais là, mais il y a tant de questions. Est-ce qu'elle va revoir ses parents ? Est-ce qu'elle va y retourner ? Etc. Oui, je suis en train de spoil allègrement, je suis désolée, mais il faut que j'en parle de ma frustration. Et au final, c'est juste la vérité. C'est juste l'histoire de la personne derrière de Marjane.
Ouais.
Et donc, y a rien à raconter de plus. C'est... Alors peut-être que depuis ça a évolué, et depuis peut-être que elle est peut-être retournée dans son pays.
Elle n'est jamais retournée, et ça fait 15 ans maintenant qu'elle vit en France.
Oui, et d'ailleurs
ça me brise le cœur, genre, en fait.
T'as une phrase, ouais, qui le dit très bien. Je t'interdis d'y retourner. Je t'interdis de revenir.
Promets-moi de jamais revenir.
Oui, ouais, et elle est jamais revenue pour certains événements qui sont très importants, qui sont dits à la fin du film,
ouais,
et qui,
ouais,
normalement tu reviens pour ça, mais non, on voit une certaine évolution. Je t'ai coupé. Hein.
Non,
on
vas-y.
Voit une certaine évolution, notamment sur le traitement des gens, sur le traitement de tout ça. Moi, il y a une scène qui me fait mourir de rire. C'est le moment où elle va à la fac,
ouais,
elle est en train de courir et qu'on lui dit arrête de courir parce que ton cul fait des mouvements qui sont obscènes, et qu'elle lui dit arrêtez de me mater les fesses. Oui.
Déjà, oui, slay girl. Dis plus fort, dis bien. Mais oui.
Et c'est tout le côté aussi où la révolution a lieu.
Ouais.
Ils sont tous tellement remplis d'espoir, et tu vois doucement tout partir en couille.
Mm-hmm.
Et c'est...
Et le fait que aussi ce soit une fille qui grandit dans une famille quand même très politisée, qui est dans une bonne
très
famille,
éduquée aussi, hein.
Très éduquée, très
communiste.
ils sont très éveillés sur plein de sujets, oui, et plus que ça, ils sont militantiste.
Ouais.
Et du coup, tu vois aussi un petit peu l'aspect de leur famille qui ont d'abord leurs valeurs de base, qui sont en mode il faut combattre, il faut lutter contre tout ce qui se passe, etc. Et petit à petit, tu vois, notamment au niveau de la mère, qui d'abord, elle est totalement révoltée et qui finit par accepter. et qui dit à sa fille, ne reviens plus.
C'est... Je pense pas qu'elle l'accepte.
En fait, elle accepte pas vraiment, mais elle tu vois quand même qu'elle est, résignée en fait. Elle, elle se dit, bah c'est comme ça et
elle veut juste. Au final, elle a juste passé le fait que elle devait sauver sa fille en prio. Elle était en mode, voilà. Moi, je peux faire ça parce que toi, je veux que tu sois en sécurité. C'est beau en vrai.
Ah ouais, c'est ça. Et du coup,
il y a toute la question de est-ce qu'ils peuvent partir. S'ils partent, qu'est-ce qui va se passer
Oui.
Ils sont, je crois qu'elle est médecin et que lui, il est avocat.
Oui, il y a un truc comme ça ils sont, où il y a une scène où justement il lui dit. En fait, si on part, tu vas devenir femme de ménage. Moi, je vais devenir chauffeur. Est-ce que tu penses vraiment que c'est la vie qu'on a? Et puis, en vrai, même elle le vit quand effectivement, à un moment, elle part, quoi. C'est que, en fait, t'es plus jamais vraiment dans ton monde, parce que elle appartient à un monde qui n'existe plus.
Mais oui, du coup, tu vois, c'est frustrant de se dire, la mère qui finalement, elle est résignée et en même temps, tu peux que la comprendre parce que c'est une question de survie.
Oui,
en fait.
C'est une question de survie tout simplement et il faut faire comme ça.
On n'a pas le choix.
Et on va devoir. Encore une fois, on passe au dernier film.
Ouais.
On va parler de Belle Ryu. To Saba Kasu Noime en japonais, désolé si j'ai écorché le nom. Ça a été réalisé par Mamoru Osada. C'est un conte qui a pris comme inspiration le conte de la Belle et la Bête de Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont. Ça a été fait par les studios Shizu. C'est sorti en 2021 et je ne l'avais pas vu à sa sortie. Le pitch rapide, Suzu est une ado timide dans son village dans la montagne. Elle devient la star d'un monde virtuel qui s'appelle U et elle se fait connaître sous le nom de Belle. Elle rencontre une mystérieuse bête qui bouleverse sa double vie et la pousse à s'accepter enfin comme elle est. De quoi vous en avez pensé quoi? Parce que en vrai je pense que je serai la vie peut-être le plus aigri même si j'ai bien aimé. Du coup je vais vous laisser commencer.
Et je pense que tu vas être étonnée. Je pense que ça va être moi la plus aigrie finalement. J'ai beaucoup aimé notamment les musiques, la chanteuse qui prête la voix actrice qui chante Belle, qui joue Belle. Incroyable, vraiment, j'adore. Elle a une voix très particulière, je trouve, et qui change des VO japonaises, je trouve, et qui est très agréable à entendre. Parce que oui, du coup, on l'a regardé en Vost FR. Et j'ai beaucoup aimé les musiques, l'animation qui est incroyable aussi. L'histoire, je l'ai beaucoup aimée, même si je trouve que c'est... Comment dire?
En goût pas assez.
Ouais, il y a un petit goût de pas assez. Notamment sur le fait que moi je pensais regarder une histoire d'amour.
Ouais.
Voilà. Moi je pensais vraiment quand je regardais ça, on me l'avait vendu comme une histoire d'amour. Je suis friande d'histoire d'amour, donc forcément quand je regarde le film, je m'attends à avoir de la romance. Je suis servie plus ou moins à certains moments et puis au final non. Et après on m'a dit c'est normal, en fait ils ont pas du tout le même âge. Et j'étais là d'accord.
Ouais, en gros t'étais pro-grooming quoi.
Non, mais ça va, ils ont 4 ans de différence.
Ouais, 18-14, c'est 10. Pas grave, allez, c'est la Première Guerre mondiale, on est parti.
Voilà.
Non, mais en fait, et du coup, le dernier point, et après, je laisse la parole à Claire, c'est qu'il y a un sous-sujet sur la maltraitance infantile, et je trouve que c'est pas assez poussé.
On est d'accord
notamment
là-dessus.
Notamment sur le père violent.
On va pas spoiler.
On va pas spoiler, mais...
Claire
En vrai, je pense qu'on est tous plus ou moins d'accord, c'est pas un mauvais film, mais c'est pas un très bon film. Je pense que pour certaines personnes, ça peut devenir ce genre de film un peu rassurant, un peu cocooning. Mais c'est vrai que cette histoire de la Belle et la Bête, nous on l'a vu à tort et à travers absolument partout dans le monde et de différentes façons. C'était pas forcément la façon la mieux amenée, parce que déjà je trouve que leur relation elle est très très artificielle quoi. Je peux comprendre ce côté. Ouais, c'est ça, je peux comprendre ce côté de c'est un enfant qui pas dans les meilleures conditions et elle non plus en fait, et du coup ils se raccrochent un peu l'un à l'autre, mais pour autant ça fait pas sincère plus que ça. Les musiques sont chouettes, c'est plutôt beau franchement, c'est très coloré, c'est quand même plein de bons sentiments, mais c'est vrai que c'est pas non plus le genre de film auquel je m'accrocherais à tort et à travers comme je pourrais le faire avec d'autres films, parce que je sais pas, il manque ce truc un peu plus humain, un peu plus vivant, et parfois peut-être que ça aurait mérité d'être un petit peu plus sombre, mais là je pense qu'on peut se poser la question du public que ça devait toucher et je suis pas sûre que ce soit notre cas en fait. Peut-être à un certain point, c'est pas un mauvais film, je regrette pas d'avoir été le voir, mais je pense pas que je le re-regarderai à nouveau. J'écouterai peut-être les musiques par contre.
Ouais. Carrément.
Je vais te rejoindre là-dessus, c'est que je pense que la relation entre Belle et la Bête fait giga artificielle. Ils se connaissent depuis une semaine. Le petit « je t'aime » à la fin, nique ta mère.
Non.
Non, vraiment, vraiment.
Non, je suis pas d'accord sur ça. Il est perdu, il a besoin d'un soutien et il vient le sauver. Tu vois, forcément qu'il va l'aimer.
Oui, mais genre, enfin. je comprends ce que vous voulez dire, mais genre, je trouve qu'il y a d'autres relations qui auraient pu être plus développées.
Ah oui.
Genre, notamment, je sais pas, avec son ami d'enfance, qui genre est soutenant pendant tout le long. Et genre, vraiment, genre, j'ai trouvé ça juste en mode, goûte pas assez. C'est pas assez sombre. Je trouve vraiment que c'est vrai que c'est pas assez sombre, mais je pense que j'étais juste pas le truc. C'est un bon film.
Ouais.
C'est un film que je verrai une fois et que je suis content d'avoir vu, mais c'est tout. Je le reverrai pas. Est-ce que juste vous pouvez, je peux vous demander quel a été votre film préféré des trois?
Demon Slayer.
Persepolis.
Persepolis. Du coup, c'était la fin de cette première émission, qui est la première du coup de toute la saison.
Est-ce qu'on pourrait pas applaudir Claire pour sa première qui a été vraiment excellente?
on peut applaudir Claire qui était excellente. Nous, moi en tout cas, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à dans deux semaines.
À bientôt. Au revoir.
Radio G. 101.5 FM. Radio-G.fr.